je considère qu'il s'agit de d'avoir de la bienveillance pour ma propre limite, d'avoir de la bienveillance, de lui donner des satisfactions quand c'est possible, pour que l'ego se détende, s'élargisse, accepte de fondre peu à peu. Mais c'est un long travail que je n'imaginais, mais alors pas du tout, du tout. Quand j'ai commencé sur le chemin, où ça me paraissait beaucoup plus rapide, facile, il suffit juste de vouloir dépasser l'ego, bah oui, bien sûr. Quand il s'agit de dépasser l'ego, c'est facile. Quand il s'agit de dépasser sa blessure d'amour-propre, c'est autre chose. Et pourtant, c'est comme ça que je le sens maintenant. L'essentiel du chemin, il est là. Alors, sur un mode un peu plus léger, je voudrais partager avec vous deux découvertes un peu récentes qui contribuent aussi à me faire sentir que c'est possible, même si actuellement il y a des fois où je bug, je bloque, ça refuse. Il y a deux choses qui m'ont assez enfin, récemment qui m'ont mis un peu de baume au cœur en me disant mais après tout ça doit quand même être possible. C'est deux choses. La première, elle vient de l'astronomie et la deuxième, elle vient de la physique quantique. Voilà, oh ça va partir de choses un peu. Donc, je vous ai dit que c'était plus léger, mais j'ai envie de partager ça avec vous, parce que c'est des prises de conscience assez récentes que j'ai faites qui m'ont nourri, et donc j'ai envie de les partager avec vous. La première, donc, ça concerne l'astronomie, et il se trouve qu'Anne-Marie, un jour, est rentrée à la maison avec un livre qu'elle avait trouvé dans une bouquinerie, un livre acheté d'occasion, et c'est le livre d'Hubert Reeve, Poussière d'étoiles. Jusqu'à présent, Hubert Reeve, j'avais jamais rien lu de lui. Je me disais que c'était de la vulgarisation scientifique. Bon, oui. Ouais. Bon. Ça m'intéressait pas plus que ça. Bon, là, elle l'avait acheté. Pas cher, parce que c'était une bouquinerie. Je me dis, oh, bah, tiens, c'est l'occasion. Je vais regarder un peu. J'ai commencé à lire et j'ai trouvé ce livre très intéressant. Et en fait, il m'a beaucoup touché. Je ne m'attendais pas du tout à être touché comme ça. Mais c'est parce que c'était mûr, hein. J'aurais lu à un autre moment, vous savez comment c'est. Des fois, on lit quelque chose, on est très, ou on voit un film, ou voilà, quelque chose qui nous percute, parce que ça nous rejoint à un moment clé. Et puis d'autres fois, on peut lire ou voir un spectacle, et puis ne pas être percuté. Donc, je pense que ce livre a une certaine valeur, mais je pense aussi que c'est la concordance entre là où j'en étais et la rencontre de ce livre. Donc, je m'intéresse pas énormément à la science, donc j'ai pas une culture scientifique phénoménale. J'ai vraiment la culture de base. Et donc, c'est une idée que je n'avais encore jamais rencontrée et que vous, peut-être, vous avez rencontrée depuis longtemps. L'idée que développe Hubert Reeve dans ce livre, c'est que tout ce qui nous compose dans ce monde, sur cette planète, et donc tout ce qui nous compose physiquement, c'est de la poussière d'étoiles. Mais il faut prendre le mot, enfin l'expression, au sens propre du mot. Il explique très bien ce que je ne savais pas dans son livre, que en fait, toute la matière et toute la complexité que la matière révèle, c'est le produit de comment on va appeler ça, d'espèces de gigantesques centrales nucléaires, gigantesques, il faudrait dire, faudrait inventer un mot, super gigantesque, etc. Parce que ce sont des échelles absolument sans proportion avec notre esprit humain. Ces gigantesques super centrales nucléaires, ce sont les étoiles. Hein, alors, vous lirez le livre si ça vous intéresse, mais en gros, depuis le Big Bang, ben, le Big Bang a projeté des particules élémentaires. À cause des lois de la physique, ces particules se sont à certains endroits rassemblées sous forme de masse. Cette masse a créé de la chaleur, et la chaleur étant tellement grande, elle produit des réactions nucléaires dans les particules élémentaires qui font que ces particules s'engendrent de façon de plus en plus différenciée et complexe. Et ensuite, les étoiles meurent, elles explosent et elles ensemencent l'univers avec ces particules plus complexes qui se mélangent entre elles et qui se complexifient. Gna 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 gna. Et finalement, on arrive aux particules qui ensemencent la Terre, les océans, etc., et qui permettent à la vie d'apparaître, etc. Ce livre est vraiment bien fait pour avoir cette vision-là, que je n'avais pas jusque-là, de se dire, mais en fait, je ne suis que un composé d'éléments stellaires. En quoi ça a à voir avec le thème précédent? C'est parce que quand je suis aux prises avec une douleur d'ego, là, quand on a bien le doigt dessus, là, eh bien, maintenant, ça m'arrive de me dire ça. T'as cette douleur, c'est que de la poussière d'étoile. Dit comme ça, ça peut paraître humoristique, mais en fait, ça m'aide. Ça m'aide à relativiser cette douleur, à c'est un élément, hein. Je dis pas que c'est le principal, mais franchement, quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait l'impression que je pouvais recevoir quelque chose qui pouvait contribuer à me mettre à distance de mon propre ego. Alors voilà, vous verrez si vous avez envie de tenter l'expérience, lisez Poussière d'étoiles. Et dans le même ordre d'esprit, il se trouve que ici nous avons un film que nous avons passé plusieurs fois pendant les séjours et qui parle de physique quantique. Et puis j'ai lu des articles de vulgarisation traitant de physique quantique, et petit à petit je me suis rendu compte que là aussi il y avait quelque chose qui pouvait être utile à la mise en perspective de notre ego. Je suis absolument pas un spécialiste de la physique quantique, et je vous renvoie, si vous êtes intéressé, à des ouvrages spécialisés. Mais ce que j'ai compris de la physique quantique, c'est que sur un plan microscopique, la réalité n'est pas construite, n'est pas déterminée. Le réel, ce n'est pas quelque chose de précis. C'est un potentiel. C'est-à-dire que actuellement, l'impression que j'ai d'être moi, c'est une illusion. En réalité, je ne suis qu'une danse de potentiel. Et puis, par un espèce de phénomène de persistance rétinienne, hein, enfin, sa persistance rétinienne, c'est pour le cinéma. Voilà. En réalité, les images sont, dans un film, c'est une série de photos, mais les photos sont rapprochées, et quand on les passe vite, on a l'illusion du mouvement. Mais en réalité, ce sont des photos fixes. De la même manière, enfin, c'est une analogie, rien n'est fixe, tout bouge tout le temps, mais comme ça bouge à un certain rythme, etc., alors moi j'ai l'illusion d'une continuité. Mais en fait, cette continuité est illusoire. En réalité, je n'ai pas de continuité. Alors, c'est évidemment un enseignement, qui vient de la physique quantique, qui recoupe complètement les enseignements traditionnels, et en particulier les enseignements bouddhistes, qui disent que l'ego n'a pas de réalité, que c'est une illusion d'optique, en quelque sorte. Mais le fait que ça soit aussi dit par la physique quantique, tel que j'ai compris, hein, encore une fois, avec beaucoup de modestie, ben ça m'aide actuellement, parce que je me dis, mais alors, même les scientifiques le disent. En fait, il y a juste un maelstrom de particules qui se combinent de façon aléatoire et qui donnent l'impression, quand on monte dans les échelles de grandeur, qui donnent l'impression d'une continuité. Donc je suis en fait une illusion vivante sur pattes. Et cette illusion, elle se croit gravement blessée parce que son épouse, elle aussi une illusion sur pattes, ne veut pas ceci ou l'oblige à cela. Juste un petit exemple pour vous montrer que l'ego c'est concret. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je n'arrive pas, quand je rentre chez moi le soir et que je suis le dernier à rentrer, à fermer la porte à clé. J'oublie. Pas toujours, mais disons 8 fois sur 10, 7 fois sur 10. Et dans le monde d'Anne-Marie, je suis d'accord avec l'idée, hein, il faut fermer la porte le soir avant de se coucher, on dort à l'étage, on ne veut pas laisser la porte du rez-de-chaussée ouverte. C'est logique, mais j'y arrive pas. Enfin, j'oublie. Jusque-là, pas de problème. Où les problèmes commencent, c'est quand elle me fait la remarque. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est dans la zone de confort. La zone où je peux dire, bah oui, elle est fatiguée, donc elle me fait un reproche. Et il y a des jours, allez savoir pourquoi, où ça devient insupportable. Elle me l'a dit hier, elle me l'a dit avant-hier, elle me l'a dit encore, fais chier. Là, je suis dans la zone où c'est plus du tout confortable, parce que c'est ma sensibilité qui est comme ça, et je peux plus, je trouve que c'est trop, qu'elle m'en demande trop, que vraiment, c'est impossible de vivre avec elle. Je suis pressé comme un citron, que c'est toujours à moi de faire les efforts. Hein, vous n'avez pas remarqué que c'est toujours à... Donc là, j'arrive. Bon, et ben, c'est là où il faut se rappeler que je suis que poussière d'étoiles, que ce truc que je ressens, c'est que de la poussière d'étoiles, et que c'est juste un jeu d'électrons à toute vitesse. En fait, ça n'a pas de réalité. Bon. Eh bien, c'est mon travail, il n'est pas fini. Voilà. J'ai encore du temps ou il faut que j'arrête?
Je ne sais pas ce qu'on avait prévu.
11h30. 11h30. J'ai encore 10 secondes. Bon. J'avais un dernier thème que je voulais évoquer avec vous, si vous êtes d'accord, si je ne vous ai pas encore lassé. Et là, ça touche à quelque chose un peu grave, et c'est pas facile de parler de ça, c'est de mon rapport à la mort. Et bah, donc, si je parle de mon rapport à la mort, ça va aussi éventuellement vous évoquer la vôtre, votre rapport à la mort. Parce que je vous ai dit que j'allais parler du début de mon chemin, de la période actuelle, et puis peut-être de ce que j'envisage pour la fin. Donc c'est en ce sens-là que j'ai envie de vous parler un peu de mon rapport à la mort. Ce que je peux dire, c'est que je constate que ça a beaucoup changé, la façon dont je me représente les choses. et je veux essayer de partager un peu ça avec vous, même si c'est pas facile. Pas facile parce que c'est délicat, donc faut parler pour dire les choses brièvement sans que ça soit caricatural. C'est en ce sens-là que c'est pas facile. Je sais ce que j'ai à dire, mais je sais pas par où je commence. Ça a fait partie des choses qui m'ont motivé sur le chemin. J'avais, comme beaucoup d'entre nous, j'avais une interrogation. Est-ce qu'il existe quelque chose après la vie? Est-ce qu'il y a une continuité au-delà de cette vie terrestre, ou est-ce qu'il n'y a pas de continuité? Avec l'impression, je vais peut-être le dire comme ça, qu'il fallait que je trouve la réponse à cette question parce que ça déterminait le sens que j'allais donner à ma vie. Quand j'étais plus jeune, c'est comme ça que je me posais la question. Si il y a un au-delà à cette vie, alors il faut que je mène ma vie pour préparer cet au-delà. Et s'il n'y a pas d'au-delà, ben, je n'ai pas besoin de m'en soucier, je peux donc mener ma vie autrement. C'était ma position de départ. Avec cette crispation sur cette question, il faut savoir, comment est-ce que je peux savoir? Les sages doivent savoir, il faut donc devenir sage. Si je suis éveillé, je saurai. Pour faire court. Et puis, les choses ont évolué. Et maintenant, je me retrouve dans une position un peu paradoxale, que je pourrais évoquer comme ça. Un, les sages ne savent pas. Et deux, ça n'a pas d'importance. Alors, comment est-ce que je suis passé de la position initiale à ma position actuelle? Alors, les sages ne savent pas, là je vais être prudent quand même. Hein, j'ai pas été tous les interroger, voilà. Mais tel que j'ai pu en parler avec Arnaud ou l'entendre en parler, je dirais que je ne suis pas sûr qu'Arnaud savait. Ce dont je suis sûr, c'est que ça ne posait pas problème. Et ma position personnelle, c'est vraiment celle-là. Je sens, en ce qui me concerne, que ça a perdu, que cette question a perdu de son importance. Et elle a perdu de son importance pour deux raisons. La première, c'est que je n'estime plus que ma vie doit être différente selon qu'il y ait ou non un au-delà à cette vie-ci. Qu'il y ait ou non un au-delà, ça ne change strictement rien à la façon dont j'ai envie de vivre ma vie aujourd'hui. Parce que je me suis convaincu qu'il n'y avait qu'une seule façon de vivre de façon juste, c'était, pour faire court, la façon dont nous propose de vivre Swami Prajnapad et la voie de la Dhyatma Yoga. Quand je dis une seule façon, c'est pas au sens dogmatique. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui ne suivent pas la voie de la Dhyatma Yoga sont à côté de la plaque. Je dis qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre sa vie, c'est de la vivre à la lumière des principes d'une spiritualité authentique. Pourquoi? Parce que si je vis ma vie à la lumière de ces principes, je réussis ma vie d'instant en instant, de jour après jour, et j'en tire le meilleur profit possible. Donc si jamais ça s'arrête pour de bon à la fin, je suis gagnant. Parce que de toute façon, il n'y avait pas de façon plus intelligente de mener sa vie. C'est ma conviction. Il n'y a pas de façon plus intelligente de mener sa vie que de mettre en pratique un enseignement spirituel digne de ce nom. Celui-ci, ou un autre, si vous êtes touché par un autre enseignement, mais ici, on est au nom de Swamiji et d'Arnaud. Donc c'est de celui-là que je parle, et c'est celui que moi je suis. Alors ça, c'est une petite révolution. Ça n'a plus aucune importance de ce point de vue. Je sais que, voilà, de toute façon, plus je réussirai à m'aligner aux principes issus de cet enseignement, et meilleure sera ma vie dans tous les domaines. Elle sera la plus juste, la plus saine, la plus heureuse pour moi, et la plus susceptible de créer d'harmonie et de bonheur autour de moi. Pourquoi ? Parce que si je mets en pratique, je vais peu à peu me dégager de mon mental et assouplir mon ego, en attendant de le dépasser complètement, au moins l'assouplir, ce qui aura pour effet de me rendre moins égocentré, donc moins égoïste, donc plus capable, moi, d'éprouver de l'amour pour les autres, donc ça c'est agréable, et les autres de bénéficier de ma compagnie, d'une compagnie agréable, bienfaisante, positive, voilà. Donc, tout le monde en sera bénéficiaire. Et puis, s'il y a quelque chose après la mort, eh bien, on peut imaginer que cette chose, cet état, soit directement dépendant de la qualité de notre vécu intérieur pendant la vie. C'est ce que disent toutes les traditions. C'est que, voilà, notre état post-mortem, il est le reflet, la continuation de ce que nous vivons pendant que nous sommes incarnés. Donc de ce point de vue aussi, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Si je mets en pratique, si je mûris spirituellement, si je suis plus capable d'amour, vraisemblablement, ça sera plus facile dans l'au-delà s'il y a un au-delà. Donc dans les deux cas, c'est ma conviction aujourd'hui, j'ai intérêt à 100% à suivre une démarche comme celle-ci, à m'y consacrer, et je peux m'apaiser quant à la suite, et tenter de commencer en ce qui me concerne, à moins organiser à l'avance et à moins prévoir. Bon, je peux prévoir une convention obsèque pour mes enfants, mes petits-enfants, ou, etc. Mais prévoir une convention post-mortem, non. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus un souci. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour finir. Alors, je vais terminer par une petite note d'humour. Ce que je viens de vous dire, là, comme quoi la seule manière intelligente et heureuse de vivre, c'est de mettre en pratique qu'il y ait quelque chose après la mort ou qu'il n'y ait rien. Je me suis rendu compte assez récemment que c'est en fait l'enseignement que Socrate a délivré à Platon et à ses disciples peu de temps avant sa mort. J'ai relu ce texte, ça s'appelle l'apologie de Socrate par Platon. Je vous invite à le relire ou à le lire si vous ne connaissez pas. C'est très, très beau et très touchant, et ça mesure aussi un petit peu le chemin que j'ai fait, parce que ce texte, je l'ai lu quand j'ai fait mes études de philo, parce que vous savez que j'étais prof de philo, donc j'ai lu ce texte. Et à l'époque, je m'étais dit, vraiment, c'est quand même pas terrible par rapport aux sages orientaux. Parce que Socrate, il sait même pas s'il y a quelque chose ou non après la mort. Bon, c'est sympa, mais enfin, heureusement qu'il y a des maîtres orientaux qui en savent un peu plus long. Et quand je l'ai relu il y a quelques temps, enfin ça fait déjà un petit moment, et que j'avais fait ce cheminement, je me suis dit, mais non, mais c'est extraordinaire en fait. Parce que les maîtres orientaux qui disent qu'ils savent ce qu'il y a, d'abord il faut voir qui dit ça parmi les maîtres. Est-ce que sont vraiment les plus grands, voilà. Mais c'est encore plus extraordinaire de pouvoir dire, en fait, je n'en sais rien, mais je m'en fous. Ça, les deux perspectives me laissent en paix. Socrate, donc à la fin de ce dialogue célèbre qui s'appelle l'Apologie de Socrate, où c'est Platon qui raconte le procès de Socrate, ce que Socrate a dit pour se défendre et pourquoi il a été condamné à mort. Voilà. Et donc, juste après le procès, je ne sais plus si c'est juste après le procès ou si c'est pendant... Ah non, c'est même pendant le procès. Il faut dire qu'il l'a cherché. Parce qu'au lieu de se défendre, comme tout le monde disait, mais il suffit que tu leur dises que tu t'excuses, que voilà, tu regrettes, etc. Puis finalement, ils vont te... Socrate, lui, il en a profité pour leur faire une grande leçon de philosophie et leur dire que vraiment, c'était regrettable qu'ils allaient mettre à mort un juste, mais que comme il était juste, il n'allait absolument pas se dédire et qu'il allait au contraire mettre les pieds dans le plat. Alors il les met bien profond. Et du coup, les autres disent, bon, ben voilà, tu regrettes rien, t'es condamné à mort. Voilà. Et dans... son plaidoyer pour expliquer au juge pourquoi il allait continuer à rester droit dans ses bottes, il dit, eh ben voilà, de toute façon, j'en sais rien s'il y a quelque chose ou non après la mort, mais s'il n'y a rien après la mort, ça ne me fait pas peur, et s'il y a quelque chose après la mort, c'est en osant vous dire ce que je vous dis que j'ai le plus de chances d'aller au paradis, je résume. Parce que je suis fidèle à moi-même et je vous fais passer le message important. Donc, il termine par ces mots assez extraordinaires. Vous pouvez me nuire. Non, vous pouvez me condamner à mort, mais vous ne pouvez pas me nuire. Voilà. Alors, j'espère qu'un jour, je serai... finalement à la hauteur de Socrate et je pourrais sentir que et puis je nous le souhaite à tous et puis je vais terminer là-dessus et que nous puissions peu à peu nous acheminer vers ce positionnement intérieur où nous sentions que la vie peut nous donner des coups mais elle ne peut pas nous nuire.
Merci. Alors.